11h.
Le samedi.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Sur la première.
Pascal Claude.
Et merci à vous de nous avoir choisis. Je vous souhaite un très beau week-end, un beau samedi matin en notre compagnie. Et c'est Bernard Stiegler que nous accueillons pour un entretien grand format. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous installé dans un studio à Paris. Vous êtes philosophe, directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais. L'un d'eux vient de sortir en format poche. Son titre, Dans la disruption, comment ne pas devenir fou. Ce livre, il a été publié il y a maintenant près de 2 ans et vous y écriviez que le monde est devenu immonde. C'est toujours ce que vous observez en ce samedi matin, Bernard Stiegler ?
Oui, plus que jamais malheureusement. D'abord, entre la publication de ce livre et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Par exemple, l'élection du président Trump, qui n'ajoute pas, je dirais, de note optimiste au point de vue que je développais à ce moment-là. Il se passe dans le monde énormément de conflits et il y a une dégradation générale de l'état moral, quoi. Partout d'ailleurs, parce qu'on dit très souvent, c'est les Européens, surtout les Français, qui vont pas bien, etc. C'est pas vrai du tout. Si par exemple, on veut comprendre un petit peu comment a été élu le président Trump, il faut lire un article que Paul Krugman avait publié dans le
l'économiste
New York
américain.
Times, voilà, l'économiste Krugman, bien connu, qui disait les classes moyennes américaines vont très très mal. Les classes moyennes, c'est-à-dire pour l'essentiel les blancs, ils vont très mal, ils se droguent de plus en plus. Une des grandes questions du débat présidentiel, c'est l'héroïne pour tout le monde maintenant. On trouve des doses d'héroïne à $10, industriellement préparées, etc., etc. Et les middle classes sont les grandes consommatrices d'héroïne. La première mortalité, c'est le suicide, puis l'overdose. Enfin bon, il décrivait un état de destruction véritablement du moral des Américains. Donc c'est pas simplement les Français qui vont pas bien. C'est, par exemple, on dit, voilà, les Français sont archaïques parce que, je dis Français, mais ça peut être les Européens, les Belges, les Wallons, parce qu'ils critiquent Uber, les plateformes, etc. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est que la première ville à avoir attaqué Uber et Airbnb, c'est San Francisco, que Londres a interdit Uber dans la ville de Londres à présent. Et donc, voilà, ça ne va pas bien parce que nous sommes dans la disruption, justement.
C'est Uber qui nous rend malade, qui nous rend fou ?
Non, je dirais pas que c'est Uber qui nous rend malade. Je veux pas faire du tout de Uber un bouc émissaire. Uber, c'est une logique de plateforme, comme on l'appelle, qui est très efficace en plus, qui a toutes sortes de vertus. Ce qui nous rend fou, c'est l'absence de capacité à produire des perspectives de soutenabilité à long terme. Dans le bouquin qui vient d'être publié en poche, je cite un jeune homme qui s'appelle Florian, qui, à l'époque où il parle dans la citation en question, à 15 ans, je crois, il s'adresse à un adulte et il dit en gros à cet adulte « Mais vous ne comprenez rien à notre génération, nous ne rêvons plus du tout de fonder une famille, nous savons que nous n'aurons pas de travail, que notre avenir est fini, que nous sommes la dernière génération, ou peut-être une des dernières avant la fin. » Ça, c'est un point de vue qui est très largement partagé par beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, et qui est extrêmement dangereux, évidemment, qui peut conduire, par exemple, à consommer de plus en plus de drogue, qui peut conduire parfois au suicide, mais qui peut conduire aussi à, je sais pas, s'engager dans Daesh, par exemple. C'est arrivé en France, et en Belgique aussi.
Vous estimez que nous sommes dans une époque sans époque, Bernard Stiegler. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie que ce qu'on appelle une époque, qui est un terme très technique en philosophie, qui vient du grec « époké », ça constitue une unité de temps dans laquelle, pour moi en tout cas, un groupe humain vit dans une époque commune parce qu'il partage un passé commun et des désirs communs, ce qu'en philosophie on appelle des protentions, c'est-à-dire des anticipations communes, un horizon d'attente commun. Aujourd'hui, il n'y a pas d'horizon d'attente. Pourquoi ? Parce que la technologie disruptive, c'est-à-dire la technologie qui s'est développée surtout à partir de 1993 avec le World Wide Web et qui a conduit à une réticulation généralisée qui fait qu'aujourd'hui presque 4 milliards d'êtres humains ont des smartphones dans le monde entier, y compris au cœur de l'Afrique. En Inde, je reviens de 15 jours passés à Delhi, voilà, le téléphone est portable et partout, mais c'est un smartphone, c'est un ordinateur. Cette technologie a créé un processus qu'on appelle disruptif.
Qu'est-ce que c'est exactement la disruption ? Parce que ce terme, on l'entend à tort et à travers aujourd'hui.
La disruption, qui vient de l'anglais disrupted, qui veut dire bouleverser, tout simplement. Hein. La disruption, c'est au sens où on l'emploie aujourd'hui, c'est un terme qui a été forgé par un Français d'ailleurs, mais qui vit aux États-Unis et qui a publié un livre dès 1993 là-dessus. C'est aujourd'hui une discipline quasiment, enfin en tout cas une démarche qui est enseignée à Harvard, il y a une chaire de disruption. Et c'est une démarche qui consiste à prendre de vitesse ses adversaires et les puissances publiques en développant des innovations de rupture extrêmement violentes. Typiquement, par exemple, voilà, quand je parlais d'Uber tout à l'heure, qu'est-ce que Uber a fait ? Eh bien, il a totalement disrupté tous les systèmes de régulation du transport individuel qu'on appelle les taxis. Airbnb fait la même chose avec l'hôtellerie, mais en fait, toutes sortes de démarches de ce genre font ça. Ils le font dans une stratégie de prise de vitesse. Donc qu'est-ce que ça veut dire la disruption ? Ça veut dire que vous arrivez toujours trop tard lorsque vous voulez réguler quelque chose, penser quelque chose, adopter une nouvelle démarche, parce que les choses évoluent extrêmement vite. Et cette vitesse, il faut très concrètement, il faut la décrire précisément. Si vous interagissez par exemple avec une plateforme, que ce soit Uber ou Amazon ou quoi que ce soit d'autre, sur votre smartphone, l'interaction peut aller jusqu'à 200 millions de mètres par seconde. Parce que c'est de l'information qui circule sur des réseaux de fibres optiques. Et dans les moments les plus optimisés, comme c'est par exemple le cas entre un trader et un réseau d'informations financières, le système va 4 millions de fois plus vite que le trader. La vitesse de la performance de délibération d'un trader, c'est 60 mètres par seconde. Parce que c'est la vitesse de l'influx nerveux sur les nerfs. Voilà. Tandis que sur une fibre optique, ça va jusqu'à 200 millions de mètres par seconde, les deux tiers de la vitesse de la lumière. À partir de là, vous voyez bien qu'il y a un processus d'accélération qui prend de vitesse tout le monde, et en particulier qui prend de vitesse les instances de délibération. Le résultat, c'est ce qui produit ce que j'appelle le Far West technologique, c'est le premier qui tire qui gagne. Mais le résultat, c'est aussi le désespoir, par exemple, de ce jeune homme Florian dont je parlais dans ce livre, voilà, qui explique qu'il n'y a plus d'avenir, plus pour lui, qu'il est la dernière génération, etc. Et Florian disait ça il y a déjà presque 10 ans, parce que c'est un discours qu'il a tenu. Maintenant, il a 25 ans, il est comédien. Mais aujourd'hui, c'est ce que pensent énormément de gens, y compris les électeurs de Donald Trump. Mais comme ils ne veulent pas vivre avec cette idée dans la tête, parce que c'est invivable, ça vous empêche de dormir, ça peut vous conduire au suicide, eh bien, ils votent Trump, qui leur raconte une histoire, c'est que, mais non, pas du tout, c'est pas vrai, on va s'en sortir. Et donc, vous entrez dans le déni, ce qu'on appelle le déni. Aujourd'hui, la catastrophe, c'est qu'en Europe, qui va disparaître l'Europe si ça continue, c'est-à-dire si on ne relance pas une vraie politique de recherche, une vraie politique industrielle, et avec des investissements publics conséquents, comme en Amérique on le fait, parce qu'aujourd'hui c'est pas le marché qui finance la recherche.
Mais qu'est-ce que vous entendez par politique industrielle exactement aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça signifie une politique industrielle en 2018 ?
Eh bien ça serait de dire, le World Wide Web, c'est nous qui l'avons fait. Et maintenant, nous allons le remettre véritablement dans le sens de ce que nous avions voulu. Qu'est-ce que c'était que le sens du World Wide Web en 1993 ? C'est Tim Berners-Lee, avec qui j'ai travaillé, que je connais personnellement, qui avait mis en place ce dispositif avec un Belge d'ailleurs, qui s'appelait Robert Caillot, et un Français qui s'appelait Jean-François Abramatic. Tous les trois, et avec une dizaine d'autres personnes, ont mis en place une suite logicielle qui s'appelle le World Wide Web, et qui consistait à créer la possibilité pour tout le monde de communiquer, de se mettre en réseau, en valorisant des singularités. Au départ, c'était fait pour que les physiciens puissent s'opposer, avoir des controverses scientifiques, parce qu'en science, c'est toujours la controverse qui est à l'origine de la pensée nouvelle. Et puis ensuite, ils se sont dit, ça pourrait aussi intéresser les informaticiens. Et donc, ils ont ouvert ça. Et puis ensuite, ils se sont dit, mais ça pourrait intéresser les citoyens européens, puisqu'il y a un débat sur le nucléaire, ouvrons ça au débat citoyen. Et c'est ce qu'ils ont fait en créant le premier site internet qui a été mis en accès public en 1993. Mais le problème, c'est que ça a été exploité par Al Gore. La première chose qu'a fait Al Gore, il a dit il faut absolument s'emparer de cette innovation et on va défiscaliser l'entreprise qui vont s'engager là-dedans, premièrement. Deuxièmement, tous les investissements qu'on a fait à Stanford, en Californie, etc., avec les industries de l'armement, eh bien on va les mobiliser dans cette optique du World Wide Web. Ça a donné toutes sortes de choses. Ça a donné Amazon, ça a donné Wikipédia, ça a donné toutes sortes de dispositifs
Facebook.
Qui sont absolument formidables. Facebook, bien entendu. Alors ça, Facebook, c'est le tournant. Il y a un double tournant qui s'opère entre 2007 et 2010, disons. C'est d'abord les smartphones, Et deuxièmement, Facebook. Et là, c'est la catastrophe. Parce que ça, c'est la naissance de ce qu'on appelle la data economy. La data economy, ça n'est plus du tout ce qui repose sur l'expression de la diversité sur les réseaux. C'est au contraire la standardisation par la data economy, c'est-à-dire par les big data. Et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple,
quand vous interagissez avec
la collecte de données, et qui fait que vous interagissez sur une plateforme, cette plateforme a sur vous toutes sortes d'informations, toutes les données que vous avez déjà laissées à travers des clics, des likes, des toutes sortes de choses, des posts que vous avez pu mettre en ligne avec des photos, des textes, etc. Et le système analyse tout ce que vous avez fait auparavant, analyse tout votre réseau aussi, les gens avec qui vous êtes, à travers des algorithmes qui sont spécialisés, qui peuvent fonctionner jusqu'à 200 millions de mètres par seconde, donc qui ont une extraordinaire efficacité, et qui travaillent à faire des corrélations à l'échelle mondiale, en temps réel, sur 4 milliards de gens qui interagissent sur des smartphones aujourd'hui, en même temps. Et ça, qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce que j'appelle des marionnettes numériques. Vous êtes piloté par la plateforme, en fait. Vous vouliez acheter, par exemple, je ne sais pas, un livre d'Arthur Rimbaud, et en fait, vous allez, comme dans Tintin au Congo, vous allez revenir avec des tas de trucs qui ne vous servent à rien. Une canne de golf, un parapluie au Congo, à quoi ça sert un parapluie? Pourquoi? Parce que vous allez être pris dans une logique de marketing qui va vous faire faire des choses que vous n'aviez pas l'intention
nous
de faire.
Nous sommes devenus parfois des marionnettes numériques.
J'exagère un peu, parce que parfois c'est très très utile en même temps. Moi j'utilise aussi Amazon, et parfois Amazon me suggère des trucs qui m'intéressent. Mais de plus en plus de gens sont téléguidés par ça, et en particulier sur Facebook, c'est absolument catastrophique. Alors cela dit, vous avez peut-être remarqué que Facebook ne va pas très très bien. Vous avez dû remarquer aussi que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Uber a été attaqué en justice à San Francisco, qu'aujourd'hui il n'a plus accès à Londres, où il y avait quand même beaucoup beaucoup de chauffeurs Uber. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un malaise dans ce modèle. Parce que ce modèle, d'abord, il y a des actionnaires de Facebook qui commencent à dire « mais c'est peut-être pas si intéressant que ça sur le plan économique ». Mais en plus, ça crée des tas de distorsions sociales. Pourquoi? Parce que la disruption, c'est ce qui détruit la société. Qu'est-ce que c'est qu'une société? C'est constitué par des systèmes sociaux. J'emploie le mot au sens de Niklas Luhmann et du français Bertrand Gilles. Les systèmes sociaux, c'est la famille, l'éducation, la religion, le droit, l'économie, tous ces dispositifs qui eux-mêmes reposent sur des concertations sociales et des processus qui sont partagés par des gens qui se sentent, je ne sais pas, belges, français, européens, américains, etc. Et qui se sentent partagés des modes de vie communs. Eh bien, tous ces modes de vie sont détruits par ces dispositifs. Et ça crée une très dangereuse situation. Alors, qu'est-ce que ça serait une politique industrielle européenne? Ça serait de réinventer tout ça. Si on écoute ce que disent, par exemple, les 15 364 chercheurs qui ont publié un appel le 13 novembre dernier à la COP23 de Bonn, en disant « c'est notre dernier avertissement, si vous ne changez pas l'organisation économique, c'est terminé, c'est trop tard », eh bien, il faut répondre à ça. Et ça, c'est une politique industrielle qui doit y répondre. Et l'Europe a tout à fait les moyens, c'est le plus grand marché du monde, 500 millions d'Européens. C'est tout à fait possible. Ces 500 millions d'Européens, ils sont à peu près bien logés, ils sont à peu près nourris, ils sont à peu près éduqués et à peu près couverts sur le plan de la santé. C'est pas du tout le cas en Inde. Je reviens d'Inde et c'est pas du tout le cas en Chine. Donc, et c'est pas du tout le cas aux États-Unis. Donc, l'Europe a des atouts formidables, mais le problème, c'est qu'elle n'a aucune idée. Parce qu'elle a renoncé à penser, elle a renoncé à réfléchir.
Mais vous parlez d'une absence d'époque, mais aussi d'une absence de la pensée.
Bah oui, bien sûr, ça va ensemble. Qu'est-ce que c'est que le XVIIIe siècle, par exemple? C'est Diderot, c'est Voltaire, c'est Rousseau en France. En Allemagne, c'est Kant. Les époques sont caractérisées par des grandes pensées. Aujourd'hui, l'absence d'époque, c'est l'absence de pensée, effectivement.
C'est aussi mais c'est l'innovation technologique, c'est le numérique qui nous empêche de penser?
Non. C'est le fait qu'on suit le modèle américain, soi-disant, qui nous dit arrêter d'investir et de laisser le marché jouer, alors que l'Amérique ne fait pas ça du tout. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai travaillé sur des modèles alternatifs de réseaux sociaux. Je n'ai pas réussi à convaincre les gouvernements français de me financer. C'est l'armée américaine qui m'a financé. C'est la Navy. Voilà. Pourquoi? Parce que la Navy, c'est les services de renseignement. Mais c'est un scandale que les gouvernements français soient même pas capables de comprendre ça. Donc, si on ne veut pas que l'Europe disparaisse, eh bien, il faut réinvestir dans ces domaines-là. Il faut se remettre à travailler, à réfléchir, à penser. Et c'est tout à fait possible. Mais c'est très, très, très urgent.
Bernard Stiegler, vous êtes philosophe. Vous êtes l'auteur du livre Dans la disruption, comment ne pas devenir fou.
Dans quel monde on vit?
Tu parles vite, tu penses vite, tu manges vite.
Aujourd'hui, parmi les mille et un mots qui affectent les humains modernes, on pourrait parler de quelque chose qui s'appelle l'accéléré.
Je tweete, je diffuse, je blogue, donc je suis.
Les gens veulent tout et tout de suite.
Dans quel monde on vit?
Sur la première.
avec Pascal Claude.
Et je vous cite Bernard Stiegler. Nous tous, ou presque tous, sommes désormais plus ou moins happés par des objets qui nous sollicitent constamment, de telle sorte que nous ne faisons plus attention à nous-mêmes, ni donc à ce qui en nous demande à être réfléchi. Nous n'en avons plus le temps, pas plus que de rêver. Nous ne faisons plus attention à nous-mêmes, ni donc à ce qui en nous demande à être réfléchi. Qu'est-ce qui en nous demande à être réfléchi, Bernard Stiegler?
C'est d'abord comment on veut vivre, comment on vit avec les autres. Alors quand je dis nous, c'est vraiment nous, c'est pas simplement l'individu. Moi je ne crois pas beaucoup à la capacité purement individuelle. Je pense que les individus sont toujours capables d'exprimer leur individualité en groupe, c'est-à-dire avec d'autres individus, et que du coup ce qui compte, c'est ce que Gilbert Simondon, un philosophe français important, appelait l'individuation collective. L'individuation collective, qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand vous êtes élu d'une ville, vous participez à l'individuation de votre ville sur un mandat, à la suite d'une élection démocratique, etc. etc. Vous organisez l'individuation collective, c'est-à-dire que vous essayez de faire en sorte que l'évolution de la ville corresponde à peu près à ce que veulent les gens. L'individuation collective, c'est aussi la façon dont les langues évoluent différemment selon des territoires. Donc ça, c'est une question absolument fondamentale, qui est que les individus doivent pouvoir développer leur savoir collectivement, et aujourd'hui sont court-circuités par les technologies. Et c'est une catastrophe parce qu'ils perdent leur sentiment d'exister. Si vous regardez ce que dit Donald Winnicott dans Jeu et réalité, il dit « Je soigne des gens qui ont perdu le sentiment d'exister ». C'est un psychiatre. Et qu'est-ce que c'est que la perte du sentiment d'exister de Richard Durne? Eh bien, il dit « Aujourd'hui, je consomme de la télévision à très haute dose, je suis en fait, c'est plus moi qui existe, je suis piloté par les trucs que je vois à la télé ». Donc les problèmes ont commencé bien avant le web, mais avec les plateformes et aujourd'hui les smartphones, ça a pris des proportions absolument colossales.
Parce qu'aujourd'hui, vous allez jusqu'à parler de démoralisation planétaire. La folie est devenue mondiale à cause des plateformes, à cause de ce monde numérique?
Non, je dirais pas seulement à cause des plateformes. Moi, je cherche pas des boucs émissaires. Je cherche des modèles de causalité.
Mais c'est fort quand même de dire qu'on est dans le cas d'une démoralisation planétaire.
C'est une évidence. Il suffit de... Vous savez...
Donc vous êtes fou, je suis fou, nous sommes fous.
C'était le sujet d'abord d'un numéro de la revue Esprit. C'est pas moi qui disais ça, c'est la revue Esprit. J'avais souligné déjà qu'en Chine, c'est un chiffre officiel du ministère de la Santé chinois, 15% des Chinois sont dépressifs. C'est partout dans le monde.
C'est une sorte de burn-out mondialisé, de burn-out
absolument
collectif.
Tout à fait. Et qui est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que les gens, au fond, savent que ça ne peut pas durer comme ça. Ils savent que, c'est ce que disent les 15 000 chercheurs dont je parlais tout à l'heure, si on ne change rien, c'est la planète entière qui est fichue. Je reviens d'Inde, en Inde, je travaille avec le Kerala, c'est un état qui est dans le sud de l'Inde, mais le Kerala est en train de vivre en ce moment même la montée des eaux. Toute la population vit au bord du littoral. Ça veut dire qu'il faut déménager des dizaines de millions de personnes dans les 20 ans qui viennent. Vous vous rendez compte de ça? Mais on ne fait rien. Personne ne fait rien. C'est un scandale. Le président français Macron était à Saint-Louis du Sénégal il y a un mois. Saint-Louis du Sénégal est en train de vivre la montée des eaux aussi. Mais personne ne fait rien. Comment se fait-il que l'Europe, par exemple, ne mette pas en place des grands plans de co-développement avec l'Afrique, peut-être en partenariat avec la Chine, puisque la Chine est très présente en Afrique? Ça créerait des activités économiques en plus. Il y a plein de choses à faire. Pourquoi? Parce qu'on est dirigé par des crétins. C'est pas plus compliqué que ça. Et si on est dirigé par des crétins, c'est pas parce que je veux pas dire que
des crétins
ce sont
qui
des
sont fous,
émissaires qu'il faudrait les pendre et qui sont dépressifs surtout. Et la dépression peut conduire à la folie. La mélancolie, c'est une forme de la
folie.
Nos
dirigeants sont dépressifs?
Mais c'est pas seulement nos dirigeants, c'est vous et moi aussi. Et c'est aussi les universitaires qui font pas leur travail, qui s'enferment dans des tours d'ivoire et qui ne prennent pas en charge ce genre de problème. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand 15 000 chercheurs disent « dans 50 ans, on est foutus », comment ça se fait que ça ne mobilise personne? C'est une honte. C'est qu'on est dans un système de la lâcheté organisée. Eh ben, il faut se mobiliser, il faut se remuer.
Mais la lâcheté, ce n'est pas la folie.
Mais ça fait partie, ça marche ensemble. Si vous voulez, quand la lâcheté produit la démoralisation, qui passe aussi par la libération des pulsions, je parle de la génération Strauss-Kahn, qui est très démoralisante pour la jeunesse française quand même. Quand vous y pensez, je ne veux pas faire de Strauss-Kahn un monstre et un bouc émissaire non plus. Mais enfin, c'est quand même un petit peu problématique d'avoir un type qui a été candidat à l'élection présidentielle française, directeur général du FMI, ministre, etc., avoir des comportements pareils. C'est produit par quoi ? C'est produit par le marketing qui exploite la pulsion. J'ai vécu ça, j'ai été directeur général de l'INA pendant quelques années. J'ai vécu la transformation de la télévision française par ce qu'on appelle la trash TV. Bon, à un moment donné, la règle c'était du sperme et du sang. Voilà, ça vous fait de l'audience. Il y a des gens qui disent, mais c'est ce que veulent les gens. Non, c'est pas du tout ce que veulent les gens. Les gens ont des pulsions. Vous et moi, nous avons des pulsions. Un jour, j'étais devant une assemblée de prélats, de hauts dignitaires de l'Église catholique, et je leur ai dit, si maintenant, derrière moi, je vous passais un film pornographique, vous n'écouteriez plus ce que je dis, et vous entreriez en érection. Et c'est tout à fait évident. Quand vous regardez la figure de Saint-Antoine, par exemple, la tentation de Saint-Antoine, Saint-Antoine, comme tous les êtres vivants, humains, a des pulsions. Donc, il peut être tenté. Maintenant, est-ce qu'on doit céder à ces pulsions ? Il y a une pulsion qui s'appelle la pulsion de mort. Erich Fromm, qui est un grand psychanalyste américain d'origine autrichienne, a montré que la pulsion de mort pouvait dominer les sociétés. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut lutter contre ça. Et pour ça, il faut du courage. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus de courage. Ils sont dans la lâcheté. Ça a existé en Allemagne dans les années 30. Ça a existé dans tas de situations. Il faut se réveiller.
Nous sommes tous fous, c'est ce que vous dites. Et pourtant, on entend ici et là, dans la rue, dans les médias, des gens qui disent « moi je vais bien, je nage dans le bonheur ». Ils mentent ?
Alors moi je ne dis pas qu'on est tous fous, hein. Je dis qu'on est tous exposés à cette folie ordinaire. D'abord on a des accès, on a des petits moments de dépression, on a des... voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni, ce qui est une forme de folie pour moi. Par exemple, dire « mais tout va bien, madame la marquise, etc. Je vais très bien ». Pour moi, les gens qui vont très bien, ce sont des crétins. C'est ce que dit un film d'Alain René.
Ça va faire plaisir à certains auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Mais non, mais on est tous comme ça. Mais moi aussi, je dis que je vais très bien, très
régulièrement.
Donc
vous êtes un crétin.
Pourquoi ? Parce que... mais bien entendu que je suis un crétin. Nous sommes tous des crétins. Parce que nous avons tous des hauts et des bas. Nous avons tous des tendances à tomber, à nous... Voilà, c'est ce qu'enseigne le christianisme. Moi, je ne suis pas chrétien du tout, mais j'admire cet enseignement du christianisme. C'est ça que représente le Christ. Il représente le fait que nous sommes des êtres faillibles. Et donc, nous en sommes tous là. Maintenant, quant à la situation actuelle de désespérance et de lâcheté qu'elle engendre, eh bien, c'est le déni. Donc, moi, je vois très bien, tout va très bien. Mais non, ça ne va pas bien du tout, il faut arrêter. Et beaucoup de gens disent ça parce qu'ils ont besoin de se convaincre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de dormir, tout simplement. Et je les comprends. Et moi aussi, je fais ça. Moi aussi, j'ai besoin de dormir. Si vous ne dormez pas au moins 6 heures par nuit, vous devenez dingue complètement. Mais ça arrive à plein de gens. Il y a énormément de gens qui sont aujourd'hui insomniaques en Europe. Qu'est-ce qu'ils font ? D'abord, ils prennent des trucs qui leur détruisent le cerveau, qui produisent parfois la maladie d'Alzheimer. Ensuite, ils sont aux antidépresseurs. Et puis à la fin, ils finissent par devenir quasiment des toxicos avec leurs médicaments. Donc, il faut regarder les choses en face. C'est ça que disait le truc de Krugman. Après, moi, je ne suis pas là, je ne veux pas du tout déprimer les gens. J'ai des moments de bonheur parce que, vous savez, j'ai eu une vie difficile. Moi, j'ai passé 5 ans en prison et tout ça. J'ai eu des grands moments de bonheur. C'est pas marrant, la prison. Mais on peut arriver, même dans les camps de concentration, il y a des gens qui arrivaient à faire des choses absolument extraordinaires. Donc, et maintenant, il faut par ailleurs produire. La vraie question, c'est regardons la réalité en face, prenons-la en charge et produisons des nouvelles perspectives. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, à Pleine Commune, sur ce territoire, très concrètement, sur un programme à 10 ans, avec des grandes entreprises, avec des universités, avec des habitants, des associations, des élus, une administration et des gens qui sont courageux, qui veulent prendre les problèmes à bras-le-corps. Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on peut sortir. Vous savez, le territoire de Pleine Commune, c'est là où...
Oui, c'est en banlieue parisienne. Vous y testez notamment le revenu contributif, c'est comme ça que vous l'appelez. Qu'est-ce que c'est, ça, Bernard Stiegler ?
Alors, avant de tester le revenu contributif, nous essayons de créer une économie contributive. Une économie contributive, c'est une économie qui repose sur la déprolétarisation. Qu'est-ce que c'est que la déprolétarisation ? C'est rendre au savoir un rôle important. Les mathématiques, la physique, le football, la cuisine, tout ça. Je prends le mot savoir au sens large, c'est pas seulement les savoirs académiques.
Il y a l'école pour ça, non ?
Non, l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, d'abord, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on dit que l'école doit apporter des compétences. Compétences, que ça veut dire
on employabilité, entend ça aussi en Belgique.
S'adapter à la tâche. Mais c'est pas du tout ça le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de transmettre des savoirs. C'est pas du tout la même chose que les compétences.
Mais les savoirs, ils sont sur Internet aujourd'hui, non ?
Pas du tout. Les savoirs sur Internet, il y a des informations. C'est pas ça les savoirs. Les savoirs, ça se transforme d'abord de manière exemplaire. C'est les profs qui vous transmettent des savoirs. S'ils ont une capacité à vous les transmettre de manière exemplaire, c'est aussi vos parents, c'est vos entraîneurs de football qui savent bien jouer au foot. Mmh. Il faut réapprendre à vivre. Les gens ne savent plus vivre. Les savoir-vivre, les savoir-faire et les savoirs théoriques, spirituels, etc. ont été détruits. Il faut les remettre au cœur de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'on a 30 ans. En fait, c'est ce que disait le GIEC déjà dans son rapport de 2014. On a 30 ans pour changer la situation si on veut que la vie existe toujours sur Terre au siècle prochain. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de savoir. Il faut donner aux gens la possibilité de développer leur savoir. Il y a l'automatisation qui arrive à toute vitesse. 47% des emplois américains sont considérés automatisables à 100% aujourd'hui. C'est le MIT qui a fait cette étude il y a déjà 4 ans. Ça veut dire que l'emploi va diminuer. Si l'emploi diminue, le pouvoir d'achat des gens va diminuer. Ça veut dire que ce qui va être produit par les robots ne va pas être vendu. Donc c'est la grosse crise économique, c'est ce qui peut arriver de pire. À partir de là, il faut redistribuer des gains de productivité pour créer de la solvabilité des marchés. Il faut donner ces gains de productivité aux gens pour qu'ils développent leur savoir à travers un revenu contributif. Ce revenu contributif, il est conditionnel. À quoi est-ce qu'il est conditionné ? Mais il reprend le modèle des intermittents du spectacle, dont je crois qu'il existe un peu d'ailleurs sous une forme différente en Belgique. Mmh. Et il consiste à dire, on donne de l'argent aux gens pour qu'ils augmentent leur capacité et leur savoir, leur capacité au sens d'Amartya Sen, et c'est un revenu conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de valoriser les savoirs qu'ils ont acquis, comme ils l'ont entendu grâce à ce revenu contributif. En France, c'est 507 heures par an. Au bout de 10 mois, il faut qu'un intermittent puisse justifier de 507 heures d'emploi avec une fiche de paye, sinon il perd son droit. Eh bien, nous sommes en train d'essayer de développer ça à pleine commune, qui est aussi le territoire des Jeux Olympiques de 2024, ce qui fait qu'il y a 7 milliards d'investissements qui sont en train d'arriver sur le territoire. Et nous, enfin pas seulement sur le territoire, sur la région parisienne, mais essentiellement sur cette partie de la région parisienne. Et nous disons, il faut à travers ça développer une autre économie qui ne repose plus sur la prolétarisation, c'est-à-dire la crétinisation des gens qui doivent s'adapter à la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire servir en fait un système dont on ne comprend même pas comment il fonctionne. Mais au contraire, qu'ils doivent s'emparer de ces automates pour prendre du temps, réfléchir, délibérer, y compris délibérer, par exemple, la manière dont ils veulent qu'évolue leur territoire grâce à l'apport des milliards d'investissements des Jeux Olympiques. Tout ce genre de choses. Et ça, c'est une nouvelle économie qu'on appelle l'économie de la contribution et qui suppose de complètement repenser toutes les fonctions de la société industrielle.
Nous sommes dans une époque sans époque, vous nous l'avez dit. À quoi doit ressembler la future nouvelle époque idéalement ? C'est ma dernière question et je vous laisse juste quelques instants, mais vraiment juste quelques instants pour rêver.
Eh bien précisément, rêver, il faut rendre la possibilité aux gens de rêver. L'homme doit rêver. Rêver la nuit, mais aussi rêver éveillé. Les poètes, les artistes rêvent éveillés. Et ce rêve qui est aussi à l'origine, c'est pas l'utopie, hein, c'est la possibilité, Paul Valéry a montré ça, c'est du rêve que vient toujours la possibilité de produire du nouveau. Aujourd'hui, on a détruit le rêve, on est dans les ça rêve pas les algorithmes. Hein. Il y a un livre qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» mais les algorithmes ne rêvent pas.
De Dominique Cardon.
Eh bien, il faut aujourd'hui effectivement relancer une société du rêve que j'appelle noétique, c'est-à-dire c'est le rêve réalisable, voilà, qui peut toujours tourner au cauchemar. Donc il faut développer une nouvelle pensée, il faut travailler, c'est très intéressant de travailler, il n'y a rien de plus intéressant dans la vie que de travailler. Quand vous êtes Zidane, que vous travaillez votre dribble, c'est pas du travail pour vous, c'est le plaisir de la vie, mais en fait c'est du travail. Élever son enfant c'est un travail, c'est un travail difficile d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est un grand plaisir. Voilà, il faut repenser complètement la vie et il faut profiter de la possibilité qu'a encore l'Europe d'investir pour réinventer un nouveau modèle.
Bernard Stiegler, invité exceptionnel ce week-end de Dans quel monde on vit ? Vous êtes philosophe et votre livre Dans la disruption, comment ne pas devenir fou, vient de sortir en format poche. Merci à vous et bon week-end.
Merci.
Et bonjour François de Smet.
Bonjour Pascal.
Tiens, je me demande, vous avez vraiment choisi d'être là ce matin avec nous ?
Oh, à moitié, le libre-arbitre, vous savez, c'est toujours à pile ou face.
Et on en parle avec vous dans Pop Philo dans quelques instants. À tout de suite François, et dès 11h, c'est bientôt à table. Au menu notamment un nouveau modèle alimentaire et des nouvelles du célèbre Jamie Oliver. Très belle matinée avec nous.